Vous écoutez Radio Campus, il est 16h.
Bonjour, on est sur 92.2 Radio Campus, dimanche 16h, c'est la première de Vacarme en réunion. On n'a pas encore de jingle, mais on a griffonné quelques notes pour se présenter un peu. Vacarme en réunion, ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli et à la fois un espace d'apparition, c'est un iceberg. Ce ne sera pas des animateurs qui vous parlent une fois tous les 15 jours. À vrai dire, pour l'instant, Vacarme en réunion, ce n'est pas grand-chose, à part du désir et des exigences. Désir de saisir la ville, de la traverser, de s'abandonner à ses fureurs, de ne pas rester inchangé, pas plus que de laisser la ville elle-même inchangée. Exigence de devenir toujours plus un outil disponible pour tous ceux qui ne sont pas dans les clous. Vacarme en réunion traîne ses guêtres donc dans les rues de la ville, à la rencontre d'une bifurcation, d'une audace, de l'étincelle qui allume les corps, les soustrait à la circulation habituelle. Mais son but, ce n'est pas de glaner des images, de sombrer dans l'esthétique, de simplement donner à voir ce qu'il y a. On voudrait plutôt changer la perception. En fait, Vacarme en réunion, à chaque fois, ça sera comme un exercice de perception. Ce que l'on voit d'abord, en face de nous, c'est une métropole asphyxiante, pas seulement parce qu'elle est le lieu du règne de la circulation des engins motorisés, aussi parce que toutes les transformations, tramway et écoquartier en tête, nouvelles places lisses et transparentes, dans toutes ces nouvelles transformations, l'existence paraît toujours plus cernée, prévue, cernée entre le confort, le travail, la sortie du samedi soir et le commerce de proximité. Vacarme en réunion, ce n'est pas glaner des images. On ne veut pas faire une photo, de la peinture, mais on voudrait être un outil, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement, dans tous les mouvements qui interrompent les flux urbanistiques et peuvent nous emporter. Vacarme en réunion va à la rencontre de ces autres mondes qui défient l'ordre des choses, et des marges qui ne sont pas les résidus de la société, mais des lieux de puissance où la vie a une épaisseur et où la vie est chargée de possible. Vacarme en réunion, on disait, c'est un pli et un espace d'apparition. Un pli, ça veut dire, justement, qu'il ne s'agit pas de mettre à jour, de mettre à nu ce qui d'habitude échappe au regard. Alors, Vacarme en réunion se fera le script des moments où ça dérape, où les mondes, les existences anormales et l'ordre s'entrechoquent. Concrètement, nous parlerons beaucoup de justice, de déboire avec la police, et de tous les dispositifs auxquels on peut se confronter dans cette ville. Du coup, à chaque fois, notre émission comportera trois parties principales, du moins on imagine comme ça pour l'instant. C'est susceptible de variations. Du coup, la première partie, la plupart du temps, ça sera des actualités internationales, nationales ou locales, qui auront, comme aujourd'hui, un rapport possible avec la deuxième partie qui est le reportage, où on prendra plus de temps pour aller rencontrer des gens, rapporter des paroles ou vous faire entendre des sons des existences qu'on aura croisées en ville. Et enfin, une des choses qui nous tient à cœur, ce sera la dernière partie qui est une boîte à outils pour s'armer face à la justice et face à la police, face à toutes les occasions qu'on a de se confronter à ce système-là. Du coup, je vais garder la parole encore quelques minutes pour vous parler brièvement de quelques mutineries qui ont eu lieu cet été, au mois d'août. Donc, ça s'est passé en Eure-et-Loir, au sud-ouest du bassin parisien. Ça a commencé le lundi 19 août. Du coup, il y a une première mutinerie à la maison d'arrêt de Blois, où une soixantaine de détenus ont saccagé un secteur de la prison. Et la mutinerie a commencé après qu'un prisonnier était découvert mort le matin même. Du coup, il y avait une espèce de litige entre les prisonniers et l'administration pénitentiaire pour savoir quelles étaient les raisons exactes de ce litige. Donc concrètement, vers 10h30, après la promenade, 60 détenus refusent de remonter dans leur cellule et commencent à saccager, enfin, c'est les informations qu'on a, à saccager un secteur de la prison. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et donc le soulèvement a duré assez longtemps, puisqu'il s'est terminé vers 14h20. Voilà, donc l'administration de la prison a dû faire appel à des équipes de renfort qui sont venues de Paris, donc les fameuses ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui sont composées de matons entraînés pour assurer le maintien de l'ordre dans la prison quand il y a ce genre de dérapage. Ensuite, dans une prison qui se situe quelques dizaines de kilomètres au sud, sans qu'on puisse savoir quel lien exact il y a eu entre les deux événements, le lendemain à Châteaudun, donc, dans un autre centre de détention, dans un autre centre pénitentiaire, une vingtaine de détenus, donc mardi 20 août, se rebellent et commencent à escalader les grillages de la cour de promenade pour attaquer un poste sécurisé et tenter de l'incendier. Alors on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'ils voulaient incendier ce poste sécurisé, peut-être pour mettre à mal le système de gardiennage de la prison. Enfin, ils ont tenté de l'incendier et n'y arrivant pas, ils sont montés sur les toits et ont commencé à briser des vitres et à lancer des dalles sur les équipes de l'ESERIS, sur les équipes de maintien de l'ordre. Voilà, donc à la fin de la journée, ils réintègrent leurs cellules et 5 d'entre eux sont placés en garde à vue. Le lendemain, rebelote, donc nouvelle mutinerie dans le même centre pénitentiaire. Cette fois, ils sont pas 20, ils sont 30, donc 10 de plus. Et ils tentent de même de sauter le grillage. Et là, la répression est d'autant plus féroce. Les ERIS font usage de flashballs, de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Il y a donc quelques blessés qui sont conduits vers l'hôpital. Et on sait pas, on reste sans connaissance du motif exact de ce mouvement-là. Voilà, donc à la suite de ces deux journées, 20 détenus sont transférés vers d'autres établissements pour éviter que cela se renouvelle. Donc c'est assez habituel dans ce genre de cas que les principaux suspects de l'agitation soient éclatés dans différents centres pénitentiaires pour mettre fin au mouvement. Voilà, donc maintenant je... Donc aujourd'hui, je l'ai pas dit, aujourd'hui on est 3 à faire l'émission, ça changera probablement un peu à chaque fois. Il y a donc deux autres personnes qui sont avec moi, et je vais laisser la parole pour la suite des actualités qui ont un rapport plus proche avec ce dont on parlera dans le reportage.
Oui, alors effectivement, on voulait aussi faire donc un reportage sur qu'est-ce qui se passait par rapport à la question des migrants, parce que c'est donc la question qui va globalement nous intéresser sur cette émission, et même dans le mois à venir. Et donc quand on pense aux migrants, on pense aussi, enfin, du moins on a tendance à penser en termes de flux migratoires et en termes de gestion de ces flux. Or, souvent, c'est transcrit dans les journaux à la manière de gestion des flux avec des centres d'accueil, des institutions publiques qui sont là pour accueillir donc les demandeurs d'asile, les personnes dans des moments d'immigration. Mais nous, on voulait aussi donc s'intéresser à comment la gestion des flux migratoires, c'est aussi une forme de contrôle judiciaire, de contrôle administratif du devenir de ces individus. Et c'est aussi un contrôle sur leur vie parce que ça fait dépendre leur circulation dans des espaces. Parce qu'en effet, ça implique un suivi perpétuel de l'institution sur ces individus qui arrivent de différents pays en France suite à différents événements géopolitiques comme la guerre au Mali ou en Syrie. Et donc, par rapport aux actualités, on voulait revenir déjà, par exemple, sur le centre de rétention administrative. Donc déjà, il porte bien son nom. L'idée de rétention administrative, elle est assez forte, justement, quand on pense à cette idée de gestion, de contrôle, en fait, judiciaire et donc des existences de ces personnes en situation d'émigration. Et donc, par rapport à ce centre de rétention administrative, donc là, on se situe le samedi 31 août, donc le CRA du Bois de Vincennes à Paris. Et donc ce samedi 31 août, 11 étrangers en situation irrégulière se sont enfuis du centre. Et donc du coup, on observe en fait une évasion vraiment importante. C'est d'ailleurs l'évasion la plus importante depuis juin 2008, parce qu'en juin 2008, dans ce même CRA, une cinquantaine de personnes s'étaient échappées suite à la mort en fait d'un retenu tunisien qui, soi-disant, aurait été victime d'une crise cardiaque, mais en tout cas mort qui avait vraiment interpellé et donc du coup dégagé des relents d'offensivité et des envies d'évasion de la part des personnes retenues dans ces centres.
Est-ce que c'est la fois où il y a eu le fameux incendie du centre de rétention?
Voilà, exactement, c'est cette fois-là. C'est la fois où il y a eu le fameux incendie. Donc on peut imaginer aussi un incendie.
Il y a une majeure partie du centre de rétention qui avait été brûlée.
Exactement, et d'ailleurs il a été fermé pendant un temps assez conséquent suite à ces épisodes, et il a été rouvert en novembre 2010. Voilà, il a été rouvert seulement en novembre 2010. Donc ensuite, le deuxième événement sur lequel on voulait revenir, donc là pour le coup c'est avant le centre de rétention administrative, c'est le moment où en fait la personne en situation d'immigration se retrouve dans une forme de clandestinité administrative, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les papiers nécessaires pour rester sur le territoire français, et que donc du coup elle est amenée à entrer dans ce genre d'institution. Et là, c'est ce qui s'est passé pour un clandestin qui était escorté par des agents de police aux frontières et en juillet. Donc, il devait en fait prendre l'avion à Lyon et retourner dans son pays. Et finalement, l'escorte pour aller jusqu'à Lyon a donné lieu en fait à une tentative d'évasion de ce clandestin qui a d'ailleurs plutôt réussi. Donc voilà. Donc du coup maintenant, je pense qu'on va faire une petite pause musicale avant de revenir en fait de manière plus approfondie sur ce sujet des migrants. Donc voilà.
Du coup, c'est un morceau de rap du groupe Les Évadés qui s'appelle Franchir les frontières et qui parle un peu de la condition des immigrés en France.
Nous vivons comme des bêtes. Nous sommes mal logés, mal reçus. Nos pères ont péri sur les champs de combat. Ils ont tout fait pour la France.
Issu de la diaspora portugaise, petit-fils de ce malaise, l'écart entre deux chaises. Nager la brasse au milieu des braises, n'envisager que la crasse, au mieux entassé à 13. Main d'œuvre pour marcher, ouvrier sans calife, souffrance à cacher, français approximatif. Faire le deuil de l'accueil, contrôle et menottes, comme s'il fallait accepter sans râler. Un rôle de balai à chiottes, et les échecs s'empilent, gâchés à être servile, recrachés par l'exil. Lâché par l'enfer, des bidonvilles de Nanterre, ces familles qu'on enterre sous une tôle de fer, et quatre planches de bois pour seul habitat, des enfants qui jouent dans la boue avec les rats, un ghetto malade, c'est le fléau des palissades, le recours au détour pour une carte de séjour, un destin sans contour, clandestin sans retour, bagne à salade devant le chantier en embuscade, les massacres coulent dans la mémoire d'un fleuve, l'eau se teint rouge aux effluves d'hémoglobine, tandis qu'une justice complice, fait disparaître les preuves, autant de molars de mépris sur ces tombes anonymes, sous une pluie de coups, une averse d'aversion, et du coup, silence porte garant des pires humiliations. Franchir les frontières, sans regarder derrière, le courage dans les bagages, chômage ou nettoyage, connaître l'angoisse de la misère sur liste d'attente, et les rêves qui se fracassent sur des portes battantes. Franchir les frontières, sans regarder derrière, le courage dans les bagages, chômage ou nettoyage, connaître l'angoisse de la misère sur liste d'attente et des rêves qui se fracassent sur des portes battantes. Issu de l'immigration post-coloniale, à l'école on m'apprend pas les vestiges d'un passé tristement glorieux. À cette époque, élève teigneux, des bonnes notes, même pas envieux, enclavé dans ces quartiers dits sensibles, je fais figure la paresseux malgré moi. Mes connaissances grandissent, mes chances de réussite s'amenuisent en vain. Le teint mat en ce lundi de novembre, une couleur opaque recouvre mon visage teinté d'une lueur de pessimisme. Pourtant, j'ai poussé la réflexion à son paroxysme jusqu'à m'en fouler le pouce. De ce sujet, j'étais censé glorifier les héros d'hier, ces bourreaux qui pratiquaient les pires sévices de 58 à 62. Une pensée pour le félagin en service. À mesure que je gagne des échelons, les manuels scolaires m'interdisent de murmurer ma reconnaissance. Confronté au choc des cultures, ma vie est prise au lasso d'existence. Pourri et poursuivi par les instances, je ne peux crier ma haine, alors j'écris en la mémoire de ceux qui sont tombés dans l'oubli. Indigène, le visage en marge depuis les chaînes d'usinage. J'ai pas perdu le nord, encore moins mes racines. Loin d'être cette échine que ta carte d'identité fascine. Ton intégration facile, je m'en branle comme de l'an 2000. Rien n'ébranle le tir raciste d'un flic en civil. Et mes plus vils instincts se conjuguent mal avec ton bled. J'ai le mal colonial, une balle pour seul remède.
Le rêve européen s'est rétréci quand s'est brisé le rêve qui jeta jadis les chevaliers de toute l'Europe sur les routes de l'Orient. Le rêve qui attira vers le sud tant d'empereurs du Saint-Empire et tant de rois de France. Le rêve qui fut le rêve de Bonaparte en Égypte, de Napoléon III en Algérie, de Lyoté au Maroc. Ce rêve qui ne fut pas tant un rêve de conquête qu'un rêve de civilisation. Cessons de noircir le passé de la France.
Voilà, la chanson se termine sur ces bonnes paroles du non-regretté Nicolas Sarkozy. Du coup, on est sur Vacarme en Réunion, Radio Campus. C'est là où on va rentrer dans la deuxième partie de l'émission qui est consacrée aujourd'hui aux migrants. Donc la deuxième partie en général, ce sera des reportages. Et ce mois-ci, comme on l'a dit rapidement au début de l'émission, ce mois-ci, c'est on va partager avec Terrain Vague ce thème-là et on essaiera d'approfondir au fur et à mesure.
Terrain Vague qui aura en fait qui est l'émission qui sera en alternance de Vacarme en Réunion un dimanche sur deux à la même heure. Et du coup, on a choisi avec eux de consacrer tout le mois de septembre à parler spécifiquement un peu de la situation des migrants à Dijon.
Voilà, et si on a choisi de parler si on a choisi ce thème-là, c'est que il a émaillé l'actualité dijonnaise depuis le début du mois de juillet. Où il y a eu l'expulsion d'un des plus grands squats où étaient concentrés certains migrants. Ces migrants sont, nous on les a vus arriver à Dijon par centaines au cours de l'été 2011. Et ça fait partie des choses qu'on aimerait vérifier. On aimerait en savoir plus sur ce qui les a conduits à venir en France par l'Italie. Après avoir traversé la Méditerranée, mais certains nous ont raconté que les conditions de passage avaient été facilitées en 2011 par les tumultes dans les pays arabes et particulièrement en Libye. Et je crois que.
Et en fait, si on voit beaucoup plus de migrants à Dijon depuis quelques années, parce que peut-être que pour beaucoup de gens ça passe inaperçu, mais pour tous ceux qui fréquentent un peu les lieux un peu en marge de la ville, tous les petits bars, les tanneries, et puis quelques quartiers particuliers, ça saute complètement aux yeux que depuis 2 ou 3 ans il y a beaucoup plus de migrants dans la ville. Et une des explications de ça, c'est qu'il y a quelques années, la procédure de régularisation des migrants, enfin des sans-papiers en France, s'est transformée et maintenant la régularisation ne se fait plus, il n'y a plus de quotas national, mais il y a des quotas préfectoraux. C'est-à-dire que, alors qu'avant, la plupart des migrants étaient à Paris parce que leur procédure pour être régularisée se faisait dans la ville de Paris. Aujourd'hui, comme les régularisations sont relatives à des préfectures, des régions, eh ben, il y a beaucoup de villes moyennes comme Dijon qui ont vu venir s'installer de nombreux migrants en fait, dans la ville. Et du coup, c'est le cas de Dijon, depuis quelques années. Quoi.
Donc, on les a vus arriver à l'été 2011 pour toutes ces raisons-là. Et quelques mois plus tard, un peu avant l'hiver, il me semble, après ce qu'on a pu comprendre, il y a eu un premier suite au regroupement de certaines associations et à la rencontre de ces associations et de certains squatteurs à Dijon, il y a eu l'ouverture d'un premier lieu squatté qui était l'ancien internat de l'école des greffes. Donc, qui était sur le long du boulevard juste au-dessus du tribunal de Dijon. Ça c'était un peu avant l'hiver 2011 et ça a été en quelque sorte le point de départ d'un mouvement d'occupation de lieux qui dure jusqu'à aujourd'hui encore. Donc il y avait plusieurs petits squats dans la ville et avec des familles, avec des individus, etc. Mais il y a eu trois principaux squats, donc l'école des greffes, comme je viens de le dire. Un deuxième qui a été ouvert près du boulevard de Chicago, donc près des tanneries, entre le quartier, juste en dessous du quartier de Lantière, donc qui était dans une ancienne boucherie. Et le dernier, c'était un squat qui s'appelle les Petites Roches, que j'aurais du mal à situer.
C'est près de la fac, sur le boulevard de l'université, pas très loin d'ici, en fait, dans les résidences qui sont derrière.
Voilà, et enfin, il faut signaler qu'il y a eu une tentative d'ouverture en décembre de l'année dernière qui s'est soldé par un échec parce qu'il y a eu une très grosse intervention policière immédiatement sans qu'on sache véritablement pourquoi est-ce que la mairie avait décidé de durcir le ton à ce moment-là. Peut-être parce que c'était des locaux. Je sais pas, l'histoire que c'était les locaux qui étaient encore pas totalement vides.
Ouais, c'était en fait c'était des locaux qui appartenaient à la caserne de pompiers et donc on pensait que cette caserne de pompiers était vide et en fait non, il semblait qu'il y avait encore des téléphones de fonction, etc. Et du coup ça paraissait à la fois compliqué pour ça et je pense aussi parce que à cette époque-là il y avait un peu une répression assez forte sur les squats à Dijon.
Voilà, donc il faut savoir que tous ces squats sont ouverts en général dans un accord entre les migrants, certaines associations, puis d'autres gens qui ont envie de leur filer un coup de main. Essentiellement parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui est en situation irrégulière de trouver un logement, en fait, à Dijon comme ailleurs. Et du coup, il y a cette solution d'ouvrir des très grands lieux, quoi, où, qui puissent accueillir beaucoup de migrants à la fois. Et donc, c'est la solution qui a été faite toutes ces dernières années.
Et donc,
bah vas-y.
Merci. Et donc là, ouais, on vous proposait en fait d'écouter un petit reportage qui a été fait sur l'expulsion de la boucherie, donc justement l'événement le plus récent concernant cette question-là. Et donc ça s'est passé cet été. Et on a rencontré plusieurs personnes qui avaient assisté à différents moments, un peu avant, un peu après. Et donc du coup, on va vous laisser les écouter.
C'est début juillet, en fait.
Pardon, début juillet. Merci pour la précision.
Le cybercafé, c'était cool, mais le foot, il y a plus d'émotions, il y a plus de bruit et tout ça, alors que je trouve qu'ici, c'est pas assez bruyant, des fois. Le quartier est super calme, et puis dans le foot, il y avait genre...
Et parce qu'ils jouaient au foot...
Ouais, devant les
maisons, ils jouaient au foot devant la
boucherie. J'ai jamais vu
ça, moi. Ils jouaient au foot devant la boucherie,
ouais. Vraiment beaucoup de
ils faisaient le but... Enfin, ils fermaient la rue, quoi. Ils fermaient la rue pour jouer au foot. C'était vraiment pas mal, ouais. C'était vraiment cool.
Ouais, j'ai jamais vu ça, moi.
Ça, c'était... quand il faisait beau, là, et en juin, en juillet, je passais souvent venir ici, donc je voyais du beau. Mais j'ai envie au foot, devant la boucherie.
Oui, effectivement.
Et c'est bien parce que du coup, il fermait la rue, jouer au foot, c'était assez convivial et c'était bien. C'est rare de voir des gens jouer au foot comme ça, à l'arrache, dans la rue ici, je trouvais ça vraiment bien.
Ah oui.
Mais vous étiez là, à l'expulsion de la boucherie?
Ouais. Moi j'étais devant.
Ça s'est su quel matin ils allaient arriver et il y a eu un truc devant.
C'était un rendez-vous à la préfecture la veille où ils assuraient qu'il n'y avait pas d'expulsion, je sais pas trop
quoi. Pas un rendez-vous, c'est juste un coup de téléphone.
Enfin,
pour refaire un peu le truc là, on avait eu des rumeurs comme quoi ils allaient venir expulser ce matin là. Et du coup, on s'était vraiment dit que c'était pas possible quoi, il y avait vraiment un truc. Que l'arnaque n'allait pas être franchie. Enfin, du coup, vu qu'il y avait ces rumeurs-là, il y a eu ce coup de téléphone des gens du collectif Soutien Asile, là, à la PREF, et ce substitut du PROC qui a juré sur l'honneur de la République qu'il n'y aurait pas d'expulsion. Ce qui était quand même assez amusant. Mais du coup, l'honneur de la République a été bafoué.
La République
n'existe plus. Voilà.
Il n'y a plus d'honneur.
Son honneur n'existe plus et elle sera bientôt défaite.
Et en fait, nous, on est arrivé vers 7h20, un truc comme ça. Et le pote, il rentre à l'intérieur pour voir un truc d'élec ou je sais pas quoi. Et nous, on était prêts à accueillir le garagiste qui allait garer sa voiture devant le banc. Donc nous on était là, on pensait pas que les flics allaient arriver, mais on pensait qu'on allait devoir se confronter au garagiste. Et en 2-2, il y a eu trois voitures de la BAC qui arrivent à bombe.
Femme, un dérapage.
Et qui bloque direct l'entrée
de la boucherie. Direct l'entrée, paf, il rentre. Et beaucoup de toki, genre...
C'est bon,
l'opération est lancée, et là...
Il y a genre 40 personnes en civil, en courant qui arrivent, quoi, genre... Un truc mais vraiment de ouf quoi.
Ouais, vachement plus que 40. Hein.
Bah, ils ont fait le premier, il y a eu deux groupes en fait. Ouais. Il y a eu un groupe où ils étaient 30-40 et après un autre groupe où ils étaient 40 ou plus quoi. Et ça faisait vraiment un truc super bizarre qu'ils arrivent tous en civil, en courant, avec les mecs d'EDF, avec les mecs de Veolia. Enfin, c'était un truc super impressionnant et il y avait un pote qui était parti en courant pour venir ici, pour appeler tout le monde, pour activer la liste. Nous, on est allé réveiller les gens sur le jardin, mais on pouvait rien faire, quoi. On était déjà complètement bloqués, tout ça. Après, il y a eu le truc marrant avec les bus.
Ouais, et du coup, en fait, la mairie avait réquisitionné des bus d'IVIA pour pouvoir les emmener à la caserne Vaillant pour pouvoir faire le check d'identité, tout ça. Et du coup, je sais pas, les gens sur place, ils ont bloqué les bus. Enfin, c'est à peu près le seul truc qu'il y avait à faire, quoi. Il y avait une compagnie de CRS qui avait été dépêchée pour l'occasion aussi, qui était là en renfort au cas où, quoi.
Et qui était en face de la rue Ramas Petit. Du coup, il y avait la boucherie, il y avait un flic qui bloquait la rue de la boucherie. Il y avait un groupe, il y avait quoi, 80-90 personnes quand même. Après,
peut-être un peu moins.
De nous.
Ouais. Avec les assos et tout ça. Et ouais, la compagnie CRS, elle était en face de la rue Ernest Petit, donc de la rue qui est derrière, qui était là juste pour nous mettre une espèce de petite pression au cas où, je sais pas trop. Et ouais, il y avait plus qui a été bloqué.
De toute façon, il y avait plus de keufs que de gens. On peut raconter la manif du soir, qui elle était vachement plus enthousiasmante.
Parce qu'il y a une manif
dans la soirée.
Le soir, du coup, à 18h, en gros, il y a eu ce truc de dire rassemblement devant la préf, je sais pas quoi, pour gueuler par rapport à ce qui s'est passé, tout ça, quoi. Et du coup, le rassemblement, il est parti en manif sauvage. Il a vraiment fait genre le tour du centre-ville, quoi.
On commençait à détruire un bâtiment, là, je pense qu'il pouvait détruire, ouais, qu'il craignait pas, mais ça voulait mettre du temps pour le reste. Du coup, ils ont mis des grilles tout autour.
Leur compagnie CRS,
ils ont d'abord posté deux vigiles.
Qui suivaient à rue parallèle, en gros, le cortège, et je sais pas, ils étaient plus ou moins prêts à intervenir au moment où, voilà, et du coup on zigzaguait entre
les vigiles. On finit par avoir trop peur.
Et il y avait un festival musical de la mairie en plein centre-ville dans la rue de la Chouette. Et en gros, on est arrivé, de toute façon, on faisait tellement masse parce qu'il devait y avoir bien 250 personnes dans cette manif sauvage, quoi. Qu'ils n'ont pas trop eu le choix, et les gens qui étaient en train de chanter à ce moment-là, ils ont donné les micros volontiers en disant vous battez pour. Enfin, ils parlaient anglais, ils disaient you fight for your rights, machin. Genre, ils étaient un peu en mode c'est normal, on doit faire ça, et tout ça.
Après, il y a eu la semaine qui a suivi aussi.
Ouais.
Après, il y a eu une expulsion.
En fait.
Les vigiles, puis les CAF après, qui sont restés, je sais pas, plusieurs jours. Parce
qu'ils ont dégagé tout le monde et après ils ont posté des vigiles devant.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait ils voulaient détruire le bâtiment, je crois.
Oui.
C'est pas là.
C'est pas là.
Non.
C'est là.
C'est là.
Ils ont mis
des grilles et des vigiles. Ouais. En fait, ils voulaient détruire le bâtiment assez vite, sauf qu'il y a eu ce truc.
En gros, déjà ça se savait un peu. Et même la mairie avait déjà utilisé comme prétexte pour l'expulsion. En plus, les gens des assos. Quand ils répondaient à la presse le jour de l'expulsion, ils disaient ça va pas se passer comme ça, la destruction, machin, le bâtiment il est bourré d'amiante, il y a une feuille d'interrogation. Du coup, ça leur a un peu foutu la pression. Et en plus, il y a eu une visite de l'inspection du travail. Enfin, il y a eu un peu de. Ils avaient cette menace-là. Ouais. Derrière les grilles. Comme des animaux en cage. Du coup, c'était le zoo du quartier. On venait voir. Ils ont mis des flics. Ils ont bloqué la rue, en fait.
Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont allés faire un peu peur aux vigiles, de temps en temps, c'est ça.
Il y a des rumeurs qui disent ça. Il y a des voisins qui ont vu des cacahuètes.
Ah ouais, ouais.
Voler.
Oui. Ah ouais. Mais les gens, ils ont vraiment cru que c'était un zoo de quartier. Du coup, ils se sont pris au jeu.
Et du coup, après, ils ont eu des flics. Après, il y a eu... À un moment, il y avait quoi, c'était... Les
il y avait quatre
trois
cas.
Premiers jours, il y avait quatre camions. De flics en permanence, jour et nuit.
Jour et nuit, ouais.
Et après, y a eu... ça tombait mal parce que ça tombait pendant le Tour de France. Et après, il y a eu le Tour de France qui est passé dans le quartier.
Ah, ouais.
Avec la remise des prix qui était devant la boucherie.
D'accord. Ça, c'était prévu depuis super longtemps.
Ouais, c'était prévu depuis super longtemps. Et du coup, la remise pour le dernier, c'est avec Messine qui avait mis.
C'était un poulet mort, je crois.
C'était un poulet mort, la remise des prix.
D'accord.
Le prix. Et du coup, en plus, comme il y avait plusieurs tours de quartier pendant le Tour de France,
il y avait des gens qui
balançaient de l'eau. Et
sinon, tu meurs de chaud sur ton vélo, c'est normal.
Et du coup, il y avait des gens sur la ligne d'arrivée qui étaient du coup devant la boucherie qui balançaient des bouteilles d'eau sur les cyclistes.
Ouais, comme on n'avait pas trop de bouteilles d'eau, c'était plutôt des sodos. Dans l'élan, tu vises, mais tu vois pas trop. Il est possible que tu aies pris un peu.
Il y a eu des accidents en plus.
Il y a eu des dérives. Hein. Les courses cyclistes, souvent, tu sais, il y a les fans, les spectateurs, ils courent à côté des cyclistes en gueulant, et puis en fait, ils se prennent la tête dans un flic.
J'ai déjà vu ça à la télé aussi.
Ouais, voilà. Aussi.
putain. Voilà.
Ah non, mais. Bon, c'est le Tour de France, hein, ça fait partie du folklore, quoi.
Vous êtes bien sur Vacarme en Réunion, Radio Campus 92.2. Vous venez d'entendre, avant la musique, un reportage des voisins, de quelques voisins du quartier des Lentillères qui ont pu assister à l'expulsion du squat de la boucherie où il y avait un certain nombre de migrants. Donc on va vous en dire un peu plus tout de suite.
Alors moi je voulais pas revenir directement sur le squat de la boucherie, mais plus en fait sur la question du squat à Dijon, parce que donc ça c'est une question qui touche déjà plusieurs lieux. Et donc tout à l'heure on parlait de situation d'urgence, et moi je pense que c'est aussi intéressant de dépasser un peu cette vision d'accueil, cette vision un peu humanitaire qui nous parle pas du tout en fait de qu'est-ce que ça peut être les migrants à Dijon et l'ouverture ou l'expulsion de ces différents endroits. Et du coup, on voulait aussi rappeler qu'en fait, l'ouverture d'un squat, même le moment d'une expulsion, c'est une initiative ou un moment collectif où les individus, ils vivent ensemble quelque chose, en fait. Et donc, du coup, c'est une manière, en fait, de donner prise sur ce qui arrive, quoi. Et cette prise, elle est vraiment intéressante sur la question des migrants, parce que justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on voit très bien comment des gens qui sont dans cette précarité administrative, dans cette précarité cette précarité de vie, leur existence, elle est très vite déterminée et régie par le pouvoir. Elle est très vite contrôlée, etc. S'ils passent par des structures institutionnelles qui leur sont directement attribuées, quoi. Et donc justement, nous, ce qu'on trouvait intéressant sur la question dijonnaise, c'est que l'ouverture de ces squats, elle permet en fait la création d'une zone d'opacité sur ce contrôle administratif des migrants. Et en fait, cette zone d'opacité, elle donne lieu à une nouvelle circulation dans la ville et à une nouvelle manière, en fait, qu'ils peuvent avoir de se rapporter à leur situation de clandestinité. Et donc, du coup, voilà, l'idée d'ouvrir des squats, le fait qu'ils se fassent expulser, l'idée d'en ouvrir des nouveaux, c'est pas juste une situation d'urgence, c'est pas juste répondre à un besoin de logement, à un besoin matériel, c'est aussi se dire que c'est donner une certaine consistance à ces existences et à leur faire prendre... une forme.
C'est plutôt mesurer la consistance de ces.
Ouais.
Plutôt que leur donner.
Plutôt mesurer quoi, tu dirais, toi, alors ?
Non, c'est juste que c'est pas nous qui allons donner une consistance à ces existences. Là, c'est plutôt justement rechercher qu'est-ce qu'elles ont de particulier et comment elles s'inscrivent dans la ville et qu'est-ce qu'elles transforment de la ville ou quelle ville elles inventent et comment on peut s'y rapporter, quoi. Comment on peut essayer de comprendre quelque chose de ça et le retranscrire un petit peu. Voilà. T'as fini ?
Oui, enfin, ça dépend. Toi, peut-être tu voulais rajouter quelque chose ?
Non. Ça me paraît assez bien. Ça résumait assez bien ce que j'entendais préciser. Après, c'est juste pour dire que... voilà, c'est comme on l'avait dit un peu avant le reportage, il y a eu différentes personnes, différentes sensibilités dans les associations, des squatteurs, des voisins, d'autres gens non identifiables qui sont rapportés à ces histoires-là et qui ont voulu... se lier avec les migrants pour ouvrir les squats, quoi. Et ce qui nous paraissait intéressant, c'était justement ce que tu disais, que c'était pas des grands lieux qui servaient d'accueil, mais que ça déplaçait un peu le regard, ça déplaçait un peu le geste, et que ça tentait d'être davantage pensé avec les migrants eux-mêmes, quoi, et comme des lieux de vie. Et du coup,
ouais, c'est intéressant. Je repense à ce que tu disais tout à l'heure. C'est sûr que c'est pas donner un sens, parce que nous, pour un peu penser ce sens-là, on a eu besoin en fait d'aller les voir eux et qu'ils nous racontent la manière dont justement ils ont vécu ces différentes expériences. Et du coup, on a décidé d'aller dans un squat qui avait été ouvert assez récemment. Et là, on a discuté avec les gens qui l'avaient ouvert, et ils l'ont ouvert à vraiment moins nombreux. Du coup, ça donne lieu à une situation qui est encore complètement différente, où les gens ils sont plus proches. Les uns des autres, et où donc du coup la vie, je pense, elle est assez différente que dans un squat comme les Petites Roches où il y a plus de 100 personnes. Et donc du coup, je sais pas, je voulais te laisser un peu raconter aussi ce truc-là parce que t'étais avec moi.
Peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont pas voulu
nous
parler directement.
Qu'il n'y ait pas leur voix directement ici, ouais. Ben, nous, on est allé rencontrer un peu quelques migrants qui vivaient dans un squat pour qui nous racontent, eux, en fait, l'expulsion de la boucherie. Et puis, en discutant un peu longuement avec eux, ils nous ont fait comprendre que c'était peut-être pas très judicieux de passer leur voix, qu'eux, ils témoignent de ce genre de choses. Essentiellement parce qu'ils ont un peu l'impression d'être traqués par la police, par les médias, par différentes forces qui perçoivent comme répressives, enfin certaines qui le sont évidemment sans aucune discussion, et puis d'autres comme la nôtre, par exemple, quand on débarque et qu'on veut les enregistrer, qui suscite évidemment la méfiance, quoi. Et puis on les comprenait bien, et puis
Il y a l'histoire aussi de ce journaliste qui était venu pour
Oui, ils ont eu quelques histoires avec des journalistes où ils ont l'impression que la présence des journalistes près d'eux a parfois influencé ou provoqué l'expulsion de certains squats, ou alors des conséquences mauvaises pour eux, quoi. Du coup, évidemment, leur stratégie, c'est un peu d'éviter de parler publiquement, quoi. Du coup, ils nous ont pas raconté l'expulsion de la boucherie. Enfin, on n'a pas d'enregistrement d'eux qui nous parle de l'expulsion de la boucherie. Et puis on se disait qu'en fait, nous, notre but dans cette émission, c'était pas à tout prix récolter des témoignages qui fassent sensation, ou des paroles qui puissent mettre en danger certaines personnes. Et du coup, on se disait qu'après tout, on pouvait leur laisser aussi un espace dans cette émission pour parler de eux, ce qu'ils avaient envie, ou de quelque chose qui leur les porterait un peu plus. Du coup, comme ils n'avaient pas voulu nous aider à retranscrire l'expulsion de la boucherie, eh ben on leur a demandé de nous aider à choisir nos musiques pour cette émission. Du coup, on va vous passer un extrait d'une des personnes qu'on a rencontrées qui va nous expliquer qui est Ali Farkatouré, qui est le chanteur dont on va entendre une musique juste après. Donc voilà, il nous explique un petit peu pourquoi, pour lui, il va nous parler, il va nous expliquer qui c'est, et puis ensuite on va écouter cette musique. Juste dire qui c'est, tu vois, d'où il vient.
Non, Alpha Kanturé, c'est un bluesman. C'est d'ailleurs l'un des plus grands bluesman africains. Ça, c'est clair. Il a joué avec Ray Cooder des États-Unis, il a joué avec les plus grands bluesman de ce monde. Il était né au Mali, à Niafunké. Et de là-bas, on a retrouvé une similitude de notes entre sa musique et le blues américain. Il n'y a rien à faire. Et il a même eu à dire que le blues était né sur la rive gauche du Niger. Parce que les Américains étaient dépassés, les Ray Cooder, l'autre qui s'appelle comment là, j'ai oublié son nom, un grand aussi bluesman américain, ils ont joué ensemble. Et il était le premier Africain à avoir remporté le Grammy Award aux États-Unis.
Ouais.
Ouais, malien, bluesman.
Mais c'est du blues particulier ou alors?
Oui, il a un.
Enfin, c'est pas le blues comme le blues américain, j'imagine.
Ce qui est très. Ce qui est encore étrange. C'est que dans la musique, à un moment donné, tu as l'impression d'écouter du blues américain et avec une connotation africaine.
D'accord.
Et il a dit, et les Américains étaient d'accord là-dessus, les racines, l'origine du blues,
c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique. The roots, les racines, c'est là-bas.
Ouais.
Donc, c'est un grand monsieur de la musique malienne internationale. Il a remporté le Grammy Award. Il a joué avec les plus grands. Il a joué en Angleterre, partout dans le monde. Donc il est décédé, je pense, en 2006, non?
Oui.
Il est décédé. Et en fin de vie, il était devenu le maire de Niafunké, le maire de sa ville natale. Donc il a joué avec Toumani Diabaté. Mais lui, c'est le maître de la kora. Dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui joue la kora comme lui. Il n'y en a pas.
C'est quoi la kora?
Vous connaissez pas la kora?
Ça me dit quelque chose.
C'est l'instrument à cordes avec une calebasse.
Ah oui.
La kora. Et sa kora a la particularité de porter le plus grand nombre de cordes qu'il existe sur cette planète.
Ah mais c'est pas une seule corde.
C'est pas une seule corde.
Ah, je croyais que.
Lui, sa kora particulièrement atteint, je pense, 36 cordes. Et il les joue simultanément. Donc c'est le maître de la kora. Donc ils ont fait ensemble un dernier album. Le dernier album de Alpha Kanturé en featuring avec Toumani Diabaté là. Mais c'est que sûr, ils ont joué ensemble. Mais si on se concentre sur Alpha Kanturé, il a fait plusieurs albums, une dizaine hein, depuis le départ. Mais en tout cas, c'est le bluesman africain, il n'y en a pas deux. Il a des sons, mais il chante. Hein. Et puis il a la particularité de chanter en plusieurs langues locales. On ne comprend pas bien le français ni l'anglais d'ailleurs. Mais il chante en quatre langues locales, hein. Je pense tamashek. Peul. Et il a un morceau qui particulièrement touche les gens. Hein. Bon, celui qu'on voudrait pour les dédicaces. Il a un morceau Gomni.
Gomni.
Gomni, ouais, qui veut dire littéralement en soirée le bonheur.
Le bonheur.
Le bonheur. Ouais. Donc dans la chanson, une chanson de courage. Allez-y, continuez, le bonheur est au bout du tunnel. Donc je pense que c'est mieux adapté. C'est pas mon préféré, mais c'est mieux adapté à la situation. Donc ça va nous booster un peu le moral, quoi.
Il y a des chansons en français?
Comment?
Il y a des chansons en français?
Ah ouais. Ah qui, Alpha Kanturé?
Ouais.
Ah si, il en a en français tordu là. il a certains morceaux en français. Je sais pas, je me souviens pas exactement parce qu'il a tellement de morceaux. Et c'est à base de guitare sèche. Hein. Jimi Hendrix.
Ouais.
Vous connaissez?
Ouais.
Bon, Alpha Kanturé, c'est un peu le Jimi Hendrix de l'Afrique. Sauf à la différence qu'il joue, il a la particularité de jouer la guitare sèche. Sa guitare n'est pas électronique, pas du tout. Et pourtant, il parvient à produire des sons qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne trouve que dans une guitare électronique. Il maîtrise, il y a une technique, je ne suis pas guitariste, je ne suis pas musicien non plus, mais il y a une technique qu'on appelle, je ne sais pas, le double contact, qu'il parvient à faire avec une guitare sèche, qui est carrément impossible. Tout ça, c'est de la guitare sèche. C'est des instruments et puis il n'y a rien d'électronique. La modernisation, il l'a mis à l'écart. Ce n'est que dans son dernier album avec, en featuring avec Toumani Diabaté, ils ont apporté une touche moderne quand même aux instruments.
Voilà, et du coup, ce qu'on venait d'entendre, c'est Ali Farka Touré, qui était présenté juste avant par un de nos amis migrants. Vous êtes dans Vacarme en Réunion, et on est maintenant dans la dernière partie de l'émission, que pour l'instant, on a choisi d'appeler boîte à outils. Et que peut-être,
ça, c'est parce qu'on aime bien le bricolage.
Mais peut-être on va l'appeler caisse à outils bientôt, comme ça, ça fera un petit clin d'œil à des amis à nous qui tiennent une caisse de solidarité à Dijon et qui essayent également de faire des choses par rapport à la justice et à la police. Donc cette rubrique, dont on n'a pas encore décidé si c'était plus cool de l'appeler boîte à outils ou caisse à outils, ce sera toutes les semaines, enfin tous les 15 jours, le moment d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut se défendre un petit peu face à la justice en se donnant quelques armes juridiques, donc pour s'organiser face à ça. Donc cette semaine, comme on a parlé de beaucoup des migrants et des squats, on va parler des expulsions. De qu'est-ce qui se passe lorsque on habite dans un logement dont on n'est ni propriétaire ni locataire, ce que la justice définit par avoir un logement sans droit ni titre. Du coup, quand est-ce qu'on risque en fait une expulsion ? Donc, ce que dit la loi, pour commencer, c'est que toute personne qui vit dans un domicile plus de 8 mois par an fait de ce domicile son domicile principal. C'est comme ça que la loi le définit. Et il y a un des droits fondamentaux de la République, enfin du droit français, qui dit que qui est ce qu'on appelle le droit au logement. C'est-à-dire que toute personne a droit d'avoir un logement. Et de ce fait, du coup, on peut avoir un domicile principal sans être ni propriétaire ni locataire de ce domicile. À partir de là, toute personne qui s'introduit dans votre domicile principal commet un délit, et il y a ce qu'on appelle violation de domicile. Du coup, il faut le savoir. Si vous habitez dans un endroit sans droit ni titre, les gens, et entre autres la police, n'a pas le droit d'intervenir dans votre domicile sans avoir une décision du tribunal. Donc, le droit français, en fait, permet qu'il y ait contradiction entre deux droits fondamentaux, le droit à la propriété et le droit au logement. C'est-à-dire qu'il y a, de fait, litige entre le propriétaire et l'occupant du bâtiment. Ce litige ne peut pas être réglé directement entre les deux personnes, c'est-à-dire qu'un propriétaire n'a absolument pas le droit d'aller lui-même expulser l'occupant de son logement. Et cette procédure doit passer par une décision de justice. Et du coup, il a besoin pour ça de déposer une plainte et que cette plainte soit jugée par ce qu'on appelle le droit civil. Et en France, c'est le tribunal d'instance qui s'occupe de juger le droit civil, c'est-à-dire les litiges entre deux personnes. Donc, il ne peut y avoir aucune expulsion en fait de ce logement sans une décision du tribunal d'instance. Donc, d'abord, il faut que la police vienne constater une occupation. Ensuite, elle en informe le propriétaire du logement qui choisit ou non de déposer plainte contre les personnes qui occupent son logement. Lorsqu'il a déposé plainte, il faut qu'un huissier vienne constater effectivement qu'il y a bien une occupation et c'est comme ça que cette plainte se retrouve au tribunal administratif. Donc une fois que la plainte est déposée, il va y avoir un procès, au tribunal et la loi prévoit que toute décision d'expulsion d'un logement doit être pourvue d'un délai de 2 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous expulser immédiatement, il faut forcément qu'il y ait un délai de 2 mois pour que vous permette de trouver un autre logement, etc. Bon, alors ça, c'est ce que dit la loi. En fait, dans les faits, ça arrive assez souvent que les gens se fassent expulser plus tôt parce que la loi prévoit 2 cas d'exception à ces 2 mois de délai. Dans un premier temps, elle dit que ces 2 mois de délai ne marchent pas s'il y a voie de fait. Alors, voie de fait, c'est un truc un peu bizarre inventé par la justice qui définit une situation où il y a préjudice à quelqu'un sans qu'il y ait agression ni violence directement. Et du coup, dans le cas des squats, la voie de fait sert à désigner le fait qu'il y ait eu effraction dans un logement. C'est-à-dire que si le logement que vous occupez pour rentrer dedans, vous avez cassé une porte, vous avez cassé une fenêtre, et qu'on peut prouver ceci, parce que si vous avez cassé une porte, une fenêtre, et que vous l'avez réparé immédiatement après, ça peut pas jouer contre... Enfin, c'est difficile de prouver qu'il y a eu effraction. Mais si on arrive à prouver qu'il y a eu effraction, alors à ce moment-là, les 2 mois de délai peuvent sauter. De la même façon, il y a un cas un peu plus rare qui est le cas de l'arrêté de péril. C'est-à-dire si la municipalité décide que le logement dans lequel vous êtes risque met en danger en fait votre vie. Donc s'il y a de l'amiante dedans, s'il risque de s'écrouler, s'il risque de mettre le feu. Enfin, ça marche souvent pour les très vieux bâtiments municipaux. Alors à ce moment-là, il dépose un arrêté de péril et vous pouvez être expulsé immédiatement de ce bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit la loi. Donc on peut remarquer qu'il y a moyen de faire respecter cette procédure pour, au minimum, ne pas être expulsé immédiatement par la police. Donc en faisant attention à ce qu'on ne puisse pas prouver que vous avez fait une effraction pour rentrer dans le logement, pour avoir un certain nombre de preuves pour prouver que vous êtes là depuis un certain temps dans ce logement, par exemple du courrier, un contrat d'électricité, des témoignages des voisins, etc. Et il vaut mieux pour vous que vous ayez mis des noms, vos noms, sur la boîte aux lettres de ce logement pour qu'il puisse y avoir une procédure judiciaire par la suite. Voilà. On pourra retrouver toutes ces informations-là bientôt sur un site qu'on va faire pour Vacarme en Réunion où on remettra un peu bien tout ça au clair parce que c'est un peu compliqué.
Oui, il y aura différents documents en ligne qui ont rapport avec l'émission. Ouais. avec les différents moments de l'émission.
Ouais, entre autres les articles de loi pour ça.
Voilà.
Et sur cette question, vous pouvez aussi écrire à la caisse de solidarité dont je parlais tout à l'heure, à l'adresse caisse-de-solidarité sans e, enfin sans solidarité en fait, at brassicanigra.org. Voilà, on redira ça aussi sur le site.
Donc vous étiez bien donc sur Vacarme en Réunion, à Radio Campus 92.2. Et donc on vous retrouve dans 2 semaines.
Et la semaine prochaine, on retrouve Terrain Vague. Ça va être une super émission